Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fréquence 7, vous écoutez L'Onde Curieuse, nous sommes le jeudi 26 janvier et c'est l'heure de votre magazine d'infos et d'actualités culturelles. Bonjour Sophie.
Bonjour Quentin, bonjour Sylvain, bonjour à toutes et à tous.
Alors Sophie, est-ce que tu ne trouves pas ça bizarre toi en ce 26 janvier, cette baisse de température, ce vent du nord persistant, il y a quelque chose de louche?
Bah c'est probablement dû à l'hiver Quentin, des masses d'air froid qui traversent l'hémisphère nord, l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil quoi, l'hiver.
Je sais pas trop Sophie, toi t'en penses quoi Sylvain? C'est l'hiver?
Bah bien sûr.
C'est normal?
Oui.
Bah, je sais pas trop, moi. C'est peut-être simplement l'hiver, mais c'est peut-être aussi l'armée russe qui manipule le climat. Faudrait pas oublier qu'on est en guerre, que la vérité est toujours la première victime des conflits. Et d'ailleurs, le gouvernement a tout intérêt à nous mentir, à nous cacher la vérité. Rappelez-vous du Covid.
Non, mais Quentin, là, tu serais pas un peu complotiste, là? Tu délires. Et je te propose d'écouter ce que raconte Sylvain Delouvet à propos du complotisme.
Ok, bon, on écoutera cet entretien en seconde partie d'émission. Pour le moment, c'est l'heure de vos informations et des actualités culturelles.
D'abord, le nouveau communiqué de l'intersyndicale dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites. Suite au succès de la manif qui a eu lieu le 19 janvier, les syndicats invitent travailleuses et travailleurs à organiser le mouvement de grève du 31, c'est mardi.
Et oui, à défaut d'une grève permanente continue et d'une mobilisation massive au quotidien, les salariés de tous bords sont invités à se réunir entre eux, toute hiérarchie confondue, pour monter des assemblées générales de grève, parler de la réforme imposée par le gouvernement, discuter entre collègues, en famille, entre amis. L'objectif, c'est que le pays tout entier soit arrêté mardi prochain, le 31. Les grèves concernent tous les secteurs, du coup, éducation, transport, énergie, santé, mais également le bâtiment, les indépendants, les travailleuses agricoles et les travailleurs sociaux.
Ouais, comme tu dis, travailleurs sociaux, la Sociale Castagne, collectif des salariés du social, toutes classes confondues, appelle eux aussi à une mobilisation massive et à des concertations en vue de la grève du 31.
Alors, mardi 31, rendez-vous est donné à 14h au rond-point de Ponson à Aubenas pour une manifestation festive avec plusieurs surprises au rendez-vous.
Sans transition, comme disait un journaliste qui a des problèmes en ce moment, les gendarmes et militaires d'Ardèche étaient réunis ce matin à Privas pour un hommage à Maximilien Maes, gendarme motard de 32 ans, décédé la semaine passée lors d'un accident de la route sur le col de l'Escrinet. Une cérémonie chargée d'émotions, puisque le jeune gendarme laisse effectivement une veuve enceinte et une petite fille.
Et oui, moi je tenais à mentionner cette actualité et à adresser nos sincères condoléances à la famille et aux collègues de Monsieur Maes. Je voulais aussi relever la présence du ministre de l'Intérieur ce matin lors de l'hommage, qui a salué, je cite, « un héros du quotidien ». Et en vérité, aujourd'hui en France, les héros du quotidien sont partout, qu'ils soient gendarmes ou non. Et je voulais rappeler qu'une vie est une vie, quel que soit le poste occupé. Et si tout le monde ne reçoit pas de médaille nationale lorsqu'ils partent trop tôt, ils restent chers à nos cœurs.
Ouais, c'est...
Voilà.
C'est pas mal de remettre un peu en perspective, même si, évidemment, on...
Tous égaux face à la tragédie de l'accident, voilà.
Patrick Petit, qui est co-secrétaire d'ELV Ardèche, dénonce le discours démagogique et méprisant d'Olivier Amran. Sa politique économique et sociale se résume à vouloir aider les entreprises à profiter des personnes bénéficiaires du RSA à qui il veut imposer 10 heures de travail hebdomadaire. Écoutez bien ça, 10 heures de travail hebdomadaire.
Et du coup, je prends la suite, c'est une citation de Patrick Petit. Donc, dans notre département qui présente l'un des taux de chômage les plus élevés de France, il est persuadé qu'il suffira d'un coup de pied aux fesses pour remettre les gens au travail, mais rien sur les besoins en formation, sur le déploiement des métiers dédiés à la rénovation énergétique, sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans l'aide aux personnes, l'agriculture biologique, le tourisme durable ou l'artisanat, pour la transition écologique par exemple.
Et Guillaume Vermorel, le porte-parole de LV, ajoute...
Je prends la voix de Guillaume, pardon. Quand on écoute son programme, on croirait un sketch des Inconnus. Pourtant, l'Ardèche et la ruralité, c'est bien mieux que ça. Il donne une image caricaturale catastrophique des Ardéchoises et des Ardéchois, et ça ne nous va pas.
Enfin, ce samedi 28 janvier à 14h30, c'est l'AG de Fréquence 7.
Et oui, les auditrices et auditeurs, membres et sympathisants de l'association Deux Sources Sûres, sont donc invités à nous rejoindre à la salle du Bourneau à Aubenas pour rencontrer les personnes qui font vivre votre radio libre, pour proposer vos idées pour l'année qui vient, découvrir ce que la radio peut faire pour vous, pour vos associations, en un mot, participer à la vie de la radio.
Ouais, participer à ce chouette média, venez ouais, avec toutes vos idées, toutes vos envies. En ce début d'année, la Fréquence 7 a envie de prendre un nouvel élan. On est d'ailleurs le fruit, Quentin et moi, de ces changements. Et on vous rappelle que vous êtes invités tous les jours à nous contacter par mail ou par téléphone pour partager vos actus, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Bref, pour faire vivre l'info sur notre territoire. Donc on compte sur vous. Si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez le dire, bah venez ouais, le 28 janvier.
Ouais, voilà, ou sans attendre le 28 janvier, mais soyez présents. Donc rendez-vous le 28 janvier, c'est samedi à 14h30 au Bourneau. C'est tout pour les petites infos de ce jeudi. Je vous propose de passer aux actualités culturelles.
Ouais. Demain soir, le 27, le CLAC vous invite à un double concert dans les anciens locaux du Cascabar à Joyeuse. La soirée Bordel instrumental maîtrisé.
Et bim, donc le CLAC présente deux groupes pour cette soirée qui s'annonce bien animée et dansante. Il y a le Beat Bourouette Trio qui propose une fusion de trad, rap et raga. Et ça sera suivi d'un concert du Bonk qui, eux, sortent une électro-brasse. C'est influence Balkan, New Orleans, techno, ça va être chouette.
Ouais, une soirée bien animée en perspective. L'entrée se joue au dé. Bienvenue dès 19h30.
Donc c'est les locaux de l'ancien Cascabar à Joyeuse, dans le centre du village.
Et puis on en a parlé ici mardi dernier. Commence demain le Festival des Idées, avec trois jours de conférences et spectacles et lectures sur la thématique Les pensées de l'écologie. C'est à la salle de la Grand Fond à Joyeuse.
Donc pour plus d'infos et pour faire des réservations pour les spectacles, rendez-vous sur le site du Pied aux Planches, lepiedauxplanches.fr.
Vous pouvez aussi réécouter l'onde curieuse de mardi pour en savoir plus.
Et oui, franchement, ouais, c'était une belle rencontre avec Brieux, qui est co-organisateur du festival. Rendez-vous sur fréquence7.net dans la rubrique du replay pour réécouter l'émission de mardi, c'était très intéressant.
Le festival Sortie de Brume, qui vous invite ce soir et demain, enfin qui invite, mais qui vous invite aussi, ce soir et demain, Magie de Cherfi à Planzol, eh ben c'est complet. Trop tard donc pour profiter de la lecture musicale de l'ancien parolier de Zebda. J'aurais dû lire cette info avant, c'est Quentin qui me l'a soumise et j'y vais avec tout mon cœur, mais non, c'est complet.
Et oui, ouais, ouais, désolé, c'est, je pensais l'annoncer aussi et puis quand je suis allé voir sur le site du festival, j'ai eu la déception aussi de voir que c'était complet, donc c'est pas grave, on ira au Festival des Idées. J'ai une dernière petite info, alors c'est de la culture, c'est de la culture viandarde là cette fois, c'est la journée de lancement du fin gras du Mézinc 2023, c'est dimanche au Monastier sur Gazeille, du coup sur le plateau côté Haute-Loire. Vous êtes invités à partir de midi à un repas du terroir sur réservation, 14h ouverture de la vente, 11h-17h buvette. Voilà, ça c'est de la ruralité à nos portes. Les infos par téléphone au 04 71 56 17 67. On continue en musique, du coup, avec, alors là on a de la chance aujourd'hui, on est les privilégiés, on a en avant-première un morceau du groupe Revox, du coup, dont Sylvain est le bassiste.
Tout à fait.
C'est super, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on va écouter ?
Bah écoute, on va écouter un morceau qui s'appelle L'Arbin, c'est un morceau, j'ai envie de dire, qui nous pousse à aller peut-être un petit peu plus loin, à se soulever.
Et le clip est déjà sur YouTube ?
Alors le clip va sortir lundi, il va sortir lundi sur YouTube, et demain à 18h, en fait, il y a notre premier LP qui sort. Vous aurez toutes les infos sur notre Facebook, c'est Revox Bullshit Music.
Bullshit music, allez, c'est L'Arbin par Revox, tendez l'oreille, levez le poing.
Yes.
C'est pour vous que le fleuve coule. C'est pour vous que souffle le vent. Tyran qui pressurait la foule. Et foutriqué de marbre blanc. Mais il restait encore quelque part par là-bas un drapeau qui saignait. sur des pavés en tas.
Danser comme un fou jusqu'au bout de la nuit, sentir le sang qui bout à la chaleur de la vie, arracher mon baillon, protection de fortune, libérer mes poumons, chanter jusqu'à la lune. Je veux boire comme un trou, entourer des amis, boire à me rendre fou, des erreurs, des envies, arracher la raison au bras de la fortune, retrouver la maison, me préserver des rancunes. Nous, pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer. Pauvre larbin, oh pauvre turbin, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Je veux tenir debout encore beaucoup de vie, sentir le vent si fou, jouer ses mélodies, arracher tous nos doutes, faire sauter les verrous dans la chaleur du mois d'août, vivre ce qui vaut le coup. Je veux fumer demain, encore parler debout, applaudir des humains qui veulent aller jusqu'au bout, arracher nos angoisses au bras de leur fortune et nourrir à la place une utopie commune. Nous, pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré.
Nous, pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Je veux me nourrir de fête, devenir allumette. Je veux que le temps s'arrête, libérer les marionnettes, arracher les œillères, finir d'être ignorant, appréhender la terre comme un être vivant. Je veux mourir d'émotion plutôt que d'inaction. Je veux mourir de passion, mourir à l'unisson. Je veux mourir d'émotion plutôt que d'inaction. Je veux mourir de passion, mourir à l'unisson. Oh nous, pauvres larbins, oh pauvres turbins, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Pauvre larbin, oh pauvre turbin, que nous faut-il de plus pour s'unir à la fin, récupérer nos vies, récupérer demain. Pauvre larbin, oh pauvre turbin, pauvre larbin, oh pauvre turbin, pauvre larbin, oh pauvre turbin, pauvre larbin, oh pauvre turbin.
Et c'était Revox sur Fréquence 7 avec le morceau Larbin. Alors donc Revox, c'est un groupe de chez nous, Sylvain en est le bassiste, et on est fiers de passer ce morceau en avant-première, puisque le premier LP Bullshit Radio sort demain à 18h sur toutes les plateformes de streaming et sur Bandcamp. Vous pouvez tenez-vous informé, il y a une page Facebook qui s'appelle Revox, R-E-V-O-X, Bullshit, B-U-2-L, S-H-I-T. Voilà, ça fait plaisir à entendre.
Ouais, ça donne envie de se révolter et de se poser des questions aussi. D'ailleurs, on continue. Ouais, on continue de se poser des questions avec le sujet du jour. Donc tu l'as introduit tout à l'heure, Quentin, le complotisme, la désinformation, les fake news, très vaste sujet.
Et oui, du coup, il y a quelques jours, une étude intitulée « La mésinformation scientifique des jeunes à l'heure des réseaux sociaux », qui a été menée par la Fondation Jean Jaurès, a fait la une dans les médias. On entendait, selon le sondage, que 16% des jeunes croient, par exemple, que la Terre est plate, qu'ils font confiance à des TikTokers, qu'ils croient vraiment en n'importe quoi, qu'ils se méfient de la science.
Ouais. Bon, alors c'est une étude qui pose question, qui soulève de vrais problèmes, mais comme l'esprit critique s'adresse d'abord à ceux qui le prônent, on pourrait questionner un peu ses conclusions et surtout s'interroger sur la manière dont on a recueilli les données et dont on les a interprétées, sans tout remettre en cause, évidemment. Mais ça, on va en reparler. En tout cas,
cette étude nous a donné envie de vous faire écouter l'interview de Sylvain Delouvet, donc Sophie a rencontré au mois de décembre. Sylvain Delouvet est maître de conférences en psychologie sociale à l'université Rennes 2, et donc il proposait une conférence à Joyeuse qui s'appelait « Complots, rumeurs et autres fake news, la vérité est-elle ailleurs ?»
Ouais, je rappelle au passage le chouette programme de conférences qui est organisé par le pays Baume d'Roby, et qui avait organisé cette conférence. On écoute cette interview donc, qui a été réalisée dans un café juste avant la conférence du 9 décembre. Sylvain Delouvet, bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Sylvain Delouvet, je suis maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Rennes.
Vous faites votre conférence en termes historiques de résistance, de contestation, et vous parlez d'ailleurs sur la radio qui se dit décalée, différente et pas pareille. Est-ce que ça va modifier votre intervention ?
Effectivement, je suis ici en terre de contestation, on va dire ça comme ça. Ça ne va pas changer directement le contenu de ma conférence qui va porter en fait sur des travaux scientifiques liés au complotisme. Pourquoi on adhère au complot, pourquoi on y croit, pourquoi on les diffuse. Ce sur quoi je vais quand même insister ici ce soir, c'est sur la distinction entre contestation, résistance et complotisme. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est résistant ou qu'on conteste qu'on est complotiste, mais ça marche dans le sens inverse. C'est pas parce qu'on est complotiste non plus qu'on est résistant ou qu'on conteste. C'est-à-dire de bien essayer de démontrer que un acte de résistance par rapport à un gouvernement, par rapport à des autorités quelles qu'ils soient, n'est pas forcément du complotisme, mais du complotisme n'est pas forcément non plus, et généralement ne l'est pas du tout, un acte de résistance.
Est-ce que vous pouvez donner une définition du complotisme ?
Alors, le complotisme, c'est une manière de voir, d'expliquer le monde à travers le complot. C'est-à-dire que c'est un récit explicatif qui, par rapport à un événement, quel qu'il soit, attribue sa cause à un petit groupe qui agit dans l'ombre. C'est une disposition cognitive, c'est-à-dire dans le cerveau, mais aussi sociale, affective et idéologique, qui mène à voir des complots partout. C'est ça le complotisme, en fait. C'est quand on voit des complots partout, pour aller très vite.
Quelle différence faites-vous entre croyance et connaissance ?
Alors ça c'est un vrai sujet philosophique et c'est pas ce que j'aborderai ce soir parce que là on est vraiment sur des questions comme je le disais philosophiques, épistémologiques aussi. Qu'est-ce qu'une croyance ? Qu'est-ce qu'une croyance collective ? Moi je suis en psychologie sociale donc je m'intéresse à des croyances qui sont collectivement partagées, pas des croyances uniquement individuelles. La distinction que je ferai pour aller très vite, c'est qu'une connaissance est basée sur un ensemble de réflexions, sur un ensemble théorique, sur un ensemble méthodologique qui amène à prendre des positions. Une croyance ne s'appuie pas forcément sur un ensemble méthodologique ou théorique et peut être en contradiction avec la réalité, pour le faire très très grossièrement. Ce qui m'intéresse, moi, en fait, ce n'est pas de savoir si un complot existe ou pas. Des complots, il en a existé, il en existe toujours, et je pense qu'il en existera aussi demain, et là, je ne prends pas un grand risque à dire ça. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi les gens, et quand je dis les gens, c'est tout le monde, c'est moi compris, c'est vous, moi, tout le monde. Petite parenthèse, je n'aime pas trop parler des complotistes, comme s'il y avait d'un côté les complotistes et de l'autre les non-complotistes. En fait, le complotisme, c'est un continuum, on l'est tous plus ou moins. Je ferme ma première parenthèse. Je disais donc que ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de savoir si un complot est vrai ou pas, c'est de comprendre pourquoi les gens, vous, moi, tout le monde encore une fois, allons préférer l'explication complotiste à d'autres types d'explications. Pourquoi on va préférer l'explication complotiste à l'explication scientifique, à l'explication qui se base sur le hasard, à une explication qui se baserait sur n'importe quoi d'autre.
Et justement, pourquoi on privilégie ce type d'explication ?
D'abord, il faut juste bien se dire qu'il y a différentes formes de complotisme. Barkun, par exemple, distingue trois types de complotisme. Ce qu'il appelle le complotisme lié au surnaturel, pour aller vite, ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui pensent qu'il y a des extraterrestres qui sont parmi nous. Ceux-là, je les mets de côté parce que c'est très spécifique, c'est parfois lié au surnaturel. On n'est pas totalement sûr que les gens y croient totalement, donc je vais le mettre à part. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le conspirationnisme d'événements. le fait que vous ou moi, pour un événement particulier, on pense que l'hypothèse du complot est plus crédible. Je sais pas, Lady Di, JFK, Kennedy par exemple, ça ne fait pas ni de vous ni de moi le plus grand complotiste du monde. Ça veut simplement dire que pour cet événement, on se pose des questions, que la version officielle ne nous convient pas, et que parce qu'on était très attaché à cette personne, par exemple Kennedy, on préfère l'explication complotiste. Là aussi, ça ne fait pas de nous un complotiste. Là où on va pouvoir être qualifié de complotiste, c'est lorsque Barkun parle du conspirationnisme ou du complotisme systémique. C'est-à-dire quand on le voit partout, tout le temps. Qu'il y ait des complots, encore une fois, c'est une réalité. J'ai coécrit un livre avec Sébastien Nieguez qui s'appelle « Le complotisme, cognition, culture et société ». Et dans l'avant-propos, dans la préface, enfin non, dans l'avant-propos, on le spécifie bien, on explique, on l'écrit noir sur blanc, que voilà, on sait très bien qu'il y a des complots, qu'il y a des lobbies, que tout ça existe et que demain ça existera encore. Ce n'est pas une raison pour autant pour supposer que face à n'importe quel événement, il y a du complot. Et c'est là que ça pose problème. Et c'est là que, bah, par exemple, pendant la pandémie, cette question est devenue une question brûlante d'actualité. C'est là où avant, avec les phénomènes de terrorisme, le complotisme a aussi pris une nouvelle dimension. C'est quand on prend cette explication comme première explication avant tout autre.
Le complotisme, ce serait une affaire de conviction personnelle ou alors plus une question de revendication?
Avec mon collègue Sébastien Nieguez, qui est un neuroscientifique suisse, nous avons voulu dans ce livre justement montrer un peu l'évolution du complotisme. C'est-à-dire qu'on est passé, il y a encore une dizaine d'années, à ce que j'appellerais un complotisme d'adhésion. C'est-à-dire des gens qui croyaient vraiment dans les théories qu'ils élaboraient, plus ou moins farfelues, peu m'importe ici, d'accord? Et on est passé de ce type de complotisme d'adhésion, je vais le dire comme ça, à ce qu'on appellerait aujourd'hui un complotisme de revendication. Autrement dit, il n'est plus nécessaire d'adhérer à la théorie du complot que l'on développe, c'est simplement un signe distinctif. Je m'oppose au gouvernement, je m'oppose aux lobbies que je suppose être des lobbies pharmaceutiques, je m'oppose aux institutions, et donc je me définis comme complotiste. Il y a 5 ou 6 ans, des collègues avaient travaillé sur l'étiquette complotiste comme stigmatisation, vous voyez, comme élément péjoratif. Toi, t'es un complotiste, tais-toi. Ça marchait effectivement il y a quelques années. La pandémie est passée par là. Et aujourd'hui, maintenant, on voit des gens dans des manifestations qui se revendiquent complotistes. En réalité, ce qu'ils revendiquent, ce n'est pas l'adhésion à une théorie du complot. Ils ne sont pas plus complotistes que moi ou que n'importe qui. C'est plus une posture politique ou une posture idéologique. C'est pour ça que je vous donnais tout à l'heure comme définition du complotisme une disposition cognitive, affective, émotionnelle, politique et idéologique. Quelqu'un aujourd'hui va se revendiquer complotiste, va considérer, va développer des thèses complotistes sans forcément y adhérer, juste pour montrer son appartenance à un groupe plutôt qu'un autre. Le fait de dire que quelque chose s'est passé comme par hasard, par exemple, la rhétorique complotiste classique, s'il y a quelques années elle était un marqueur d'adhésion, aujourd'hui, c'est plutôt un marqueur d'affiliation, un marqueur d'appartenance sociale. Voilà, je me revendique complotiste.
C'est donc aussi une question de défiance, de revendication.
On assiste aujourd'hui donc à une forme de complotisme revendicatif. C'est-à-dire que certains individus vont utiliser le complotisme comme un porte-drapeau, comme hier on utilisait des idéologies politiques, comme on utilisait des symboles. Aujourd'hui, c'est un signe d'appartenance. Parce que je consulte tel site internet, parce que je lis tel journal ou tel pseudo-journal, parce que je parle de telle théorie, eh bien je me retrouve avec d'autres. Quand bien même je n'y crois pas.
Comment il est possible de trouver un terrain d'entente, surtout un terrain de dialogue?
Mais parce que je pense que là, vous mettez ensemble toute une série d'individus qui ne vont pas forcément ensemble. Qu'il y ait des complotistes qui n'adhèrent pas à leur théorie et qui soient dans une forme de contestation, de revendication, oui, c'est vrai, et je pense qu'il y en a de plus en plus. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi une partie de complotistes qui adhèrent à leur théorie et qui, eux, essayent d'argumenter pour essayer de vous faire changer d'avis. Et puis, il y a encore d'autres types de personnes que je qualifierais pas de complotistes, mais qui adhèrent à une théorie du complot particulière. Donc, en fait, on se situe pas au même niveau. C'est pour ça que quand on parle d'éducation à l'esprit critique, quand on parle d'éducation aux médias et à l'information, par exemple, on se focalise sur ceux du milieu, c'est-à-dire ceux qui, en fait, ne prennent pas les informations peut-être au bon endroit, non pas qu'il y ait un bon endroit estampillé État, mais qui vont prendre des informations déformées et les prendre pour vrai. Donc là, il y a un travail à faire, là, effectivement. Ce travail à faire, il n'est pas à faire pour les faire changer d'avis. Il est à faire pour leur permettre, eux, de changer d'avis. C'est-à-dire qu'il y a une vraie distinction entre j'impose un point de vue et je veux que tout le monde ait celui-ci, et je pense que les gens, typiquement, se trompent en croyant que, je ne sais pas, tel pseudo-journaliste ou telle figure médiatique dit la vérité. L'objectif, c'est simplement de leur dire, bah, peut-être de critiquer aussi cette personne-là. Dans le complotisme, il y a parfois une forme d'esprit critique, de cette idée que voilà, moi je ne suis pas un mouton, je ne pense pas comme les autres et je réfléchis par moi-même. Très bien. Eh bien, allons au bout du raisonnement. Que certains politiques mentent ou que tous les politiques mentent, que certains laboratoires pharmaceutiques mentent ou que tous mentent, pourquoi pas ? C'est une hypothèse, pourquoi pas ? Mais pourquoi dans le même temps, certains scientifiques, je ne sais pas, un Marseillais par exemple avec une barbe, diraient totalement la vérité. Pourquoi tel youtubeur, tel podcasteur, tel influenceur, lui, serait celui qui détient la vérité qu'il faudrait croire coûte que coûte. Se méfier de certaines institutions devrait aller avec la méfiance également vis-à-vis de certains gourous. Considérer qu'on est anticonformiste parce qu'on n'accepte pas la version officielle, c'est en fait bien souvent être conformiste par rapport à la version complotiste. Le nombre de complotistes que j'entends qui ont le même discours, mot pour mot, les mêmes arguments, les mêmes théories qu'ils développent, montre qu'on a bien affaire à une forme de conformisme, on a bien affaire en fait à une bande de moutons alors qu'eux-mêmes se revendiquent comme des libres penseurs.
Certains complotistes disent justement qu'ils vont, contrairement à d'autres, beaucoup s'informer, gratter les sujets.
Sauf qu'ils vont gratter uniquement dans le sens qui confirme leur croyance. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. C'est-à-dire que développer un regard critique, creuser les informations, d'abord ça nécessite des compétences. Moi je suis désolé, j'ai certaines compétences, mais je ne les ai pas toutes. Donc moi, si vous me parlez d'éléments liés à la biologie, je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Si vous me parlez d'éléments liés, je sais pas, au journalisme, j'en ai pas non plus. Donc là, ben, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire confiance. Comme les complotistes, je vais faire confiance à qui ? Ben, je vais essayer de repérer les sources qui sont des sources de confiance. En tout cas, celles qui vont dire des choses qui peuvent être réfutées, qui peuvent être discutées. Or, pour un certain nombre de personnes complotistes, il y a une surconfiance dans une parole revendicatrice d'opposition. Et donc là, ils ont l'impression de développer une pensée alternative, quand bien même cette pensée est totalement futile ou à des milieux de l'explication.
Est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre à se méfier de ses propres pensées, surtout lorsqu'elles vont dans notre sens ?
C'est très bien de se méfier de ses pensées, et je suis le premier à défendre l'esprit critique. Il n'en demeure pas moins qu'à un moment, pour vivre en société, pour avancer, il faut aussi accepter de faire confiance. C'est-à-dire exacerber la méfiance ou la défiance vis-à-vis de tous, de toutes, de tout le monde, tout le temps, ne permet pas à une société d'avancer, ne vous permet même pas à vous-même d'avancer. Parce que vous allez vous poser des questions tout le temps sur tout. À qui faire confiance ? Pourquoi ? Pourquoi lui ne me mentirait pas ? Pourquoi ? Là, on risque de tomber dans de la paranoïa. La paranoïa, c'est un problème psychologique individuel. Moi, je vous parle de complotisme, qui a une dimension sociale, qui a une dimension collective. C'est-à-dire, on ne vous en veut pas à vous personnellement, on en veut à votre groupe. Donc, cette défiance continue, elle doit être retravaillée. Alors, évidemment, les politiques sont assez mal placés pour expliquer qu'on doit leur faire une totale confiance quand il y a des exemples qui s'accumulent dans l'histoire, dans l'actualité, où on s'aperçoit qu'ils ont menti, qu'ils ont trahi. Mais ce n'est pas parce qu'on a des exemples de politiques corrompues, ce n'est pas parce qu'on a des exemples de complots menés par la CIA, par le Mossad, ou je ne sais quel service secret, que tout ce qui arrive aujourd'hui est dû à la CIA ou est dû à des politiques corrompues. Il faut accepter de faire confiance sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, de suspendre son jugement, parfois, c'est-à-dire que plutôt que de commencer par la critique, simplement arrêter son jugement, suspendre son jugement, et parfois la bonne méthode avant qu'il y ait une espèce d'emballement et de diffusion de fausses informations.
Et c'était Sylvain Delouvet au micro de Sophie. Merci beaucoup pour cet entretien. C'est très 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 intéressant le fond de la pensée de Sylvain Delouvet et cette idée que la confiance est le socle de base de la société et que du coup bah, peut-être qu'on est en train de redéfinir des instances dans lesquelles on peut croire parce qu'en fait on sait quand même la défiance vient aussi beaucoup du fait que les gouvernements cachent volontairement des informations, ça devient très difficile d'exiger une transparence de la part des gouvernements, de la part des multinationales, le fait que la science aussi soit gouvernée par des intérêts économique, ça n'aide pas non plus à la confiance.
Oui, mais c'est ça, mais c'est ce qu'il dit, en fait. Il ne néglige pas le fait que tout ça ait lieu, qu'il y ait qu'il y ait effectivement des complots, qu'il y ait des intérêts, etc. Mais c'est vrai que cette question de la confiance, elle est essentielle parce que pour vivre ensemble, vraiment ensemble, il faut apprendre à se faire confiance. Et ça, c'est... Enfin, personnellement, c'est quelque chose vraiment qui m'avait marqué, notamment sous l'ère de Trump, où je me disais, mais comment, si tout le monde y va de sa vérité alternative, comment on fait société, en fait? Chacun a des bulles de vérité et chacun vit dans son monde avec ses propres vérités qu'il partage avec quelques-uns.
Et ouais, et puis ça nous aide pas à faire corps en tant que corps social.
Exactement. Voilà.
Je voulais revenir sur... du coup, toi, t'as regardé et t'as lu cette étude sur la mésinformation scientifique des jeunes à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en as tiré comme conclusion? Enfin, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans cette étude?
Ouais, alors bah là, juste quelques secondes là-dessus, parce que c'est vrai que typiquement, on parle d'esprit critique. Et c'est vrai que moi, la première fois, j'ai lu cette étude. Enfin, j'ai d'abord entendu à la radio, et c'est une étude qui a été un petit peu diffusée un peu partout. Et j'ai été effrayée. Je me suis dit, oh mon Dieu, rien ne va plus. Les jeunes sont des cons. Et on va en mourir. Et puis
c'est pas aussi simple que ça.
Eh ben non, c'est pas aussi simple que ça. Et j'ai lu cette étude et ce qui m'a aidé aussi à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et je cite mes sources du coup, c'est La Tronche en Biais. La Tronche en Biais, c'est une chaîne YouTube qui parle de méthodes scientifiques, justement de zététique, etc. Et ça m'a permis de prendre un petit peu de recul. Thomas Legrand de cette chaîne, donc La Tronche en Biais, a fait une étude là-dessus qui s'appelle précisément Les jeunes sont débiles. Et surtout, il remet pas complètement en question. On parlait de confiance, hein, donc il remet pas complètement tout en question en disant que cette étude est vraiment une étude de merde. Pas du tout, pas du tout.
Non, par contre, comme tout discours, elle est tenue par une certaine catégorie de personnes. La Fondation Jean Jaurès, c'est des vieux.
Non, c'est oui. Alors, ça peut être des vieux, c'est vrai, avec un certain point de vue sur les jeunes. Mais surtout, Thomas Legrand mettait l'accent sur la manière dont le sondage et dont les questions ont été posées. Et c'est vrai que ça change pas mal de choses. Et quand j'entendais encore dans cette interview Sylvain Delouvet qui disait ce qui est important, c'est de suspendre son jugement quand on ne sait pas, bah précisément dans les sondages, quand on pose des questions et qu'on ne peut pas répondre par « je ne sais pas » ou « je n'ai pas d'avis », ça pose question parce que les réponses sont à prendre avec des pincettes parce qu'on sait qu'on a un biais, ce qu'on appelle un biais d'acquiescence, c'est-à-dire qu'on va fournir une réponse plutôt positive, on va plutôt dire oui, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que contrairement à ce qu'on vous a dit dans vos livres scolaires, la Terre
peut-être plate. Et oui.
Bon, alors là déjà il y a plusieurs éléments. Contrairement, ah oui tiens c'est vrai. Est-ce que dans les livres scolaires, il n'y aurait pas un problème? Et est-ce que, tiens, ça n'ouvrirait pas sur autre chose? Dans le doute, je vais dire oui. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on pense que la Terre est plate.
Et oui, c'est de laisser c'est la complexe. Possibilité de...
De dire, bah, je ne sais pas, ou attention, non, enfin, voilà. Arriver avec une question qui demande une réponse nette, claire et précise, c'est un biais, déjà. Donc, voilà. Et donc, encore une fois, sans complètement remettre en question le fond de l'étude, toute l'étude, c'est vrai que, on se pose des questions. Et ça, cette question sur les sondages, je me la pose à chaque fois, et notamment sur les sondages politiques, quand on nous laisse pas le choix de répondre « je ne sais pas » ou alors qu'on va interpréter ce « je ne sais pas » d'une certaine manière, c'est problématique. Mais bon, sur le fond, c'est vrai que cette étude met en lumière une peur ou une prise de recul, justement, des jeunes de plus en plus importante par rapport à la science et par rapport au bienfait de la science.
Et oui, on avait longtemps associé la science au progrès et le progrès au progrès technologique, et le progrès technologique était censé apporter une infinité de bienfaits dans nos vies. Et aujourd'hui, on voit avec la crise climatique que l'utilisation technologique de la science ne nous apportera pas que du bon.
C'est sûr. Et c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles ces jeunes ont répondu que oui, non, la science... Alors, je vous donne les chiffres, hein, pour ne pas parler en l'air. L'une des conclusions, c'est que les jeunes perçoivent beaucoup moins positivement les bienfaits de la science qu'il y a 50 ans. Et... aujourd'hui, il y a 17% des jeunes qui en pensent plus de mal que de bien. Ils étaient 11% en 1972. Et plus de bien que de mal, quand même, 33%. 33% pensent que la science apporte plus de bien que de mal.
Bon, ça reste un taux convenable. Après, c'est pareil, il faut savoir ce qu'on met derrière la science. Et peut-être que toute cette défiance est aussi liée au fait qu'on a un peu oublié la leçon de Rabelais. Du coup, c'est bien de Rabelais qui disait...
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Voilà. La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant, et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est peut-être quelque chose que les scientifiques avaient oublié ces derniers temps.
Mais voilà, gardons nos cerveaux allumés, posons-nous des questions, tout en faisant confiance, on en a besoin.
Voilà, belle conclusion pour cette onde curieuse du jeudi. Eh bien écoutez, je suis rassuré de savoir que l'hiver est bien une réalité et qu'on a le droit d'avoir froid sans y voir la main de Vladimir Poutine. Merci beaucoup Sylvain de nous suivre tous les jours. Merci. Merci Sophie pour cette belle entrevue avec Sylvain Delouvet.
Et bientôt on pourra écouter d'ailleurs l'EP de Sylvain.
Oui, dès demain à 18h, rendez-vous sur le Facebook de Revox, Revox Bullshit.
Merci à toutes et à tous, on vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve du coup
lundi
avec une nouvelle onde curieuse. Voilà.
Aujourd'hui sur Fréquence 7.
Oui.
On va rappeler qu'à 13h et 16h, on va retrouver Parole de citoyennes et citoyens. 15h, il y aura le Télex et 17h, la rediffusion de cette émission.
Voilà. Merci Sylvain. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.